VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Et 11h à Conakry, midi à Bangui. Bienvenue à notre journal. Sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dimanche et lundi prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud. Son thème officiel, l'année du développement et de l'émancipation des femmes. Mais selon l'AFP, la réunion devrait être dominée par des sujets d'actualité brûlante comme la crise au Burundi, la question des migrants qui risquent leur vie par milliers pour gagner l'Europe, la guerre au Soudan du Sud et les attaques des mouvements islamistes qui menacent plusieurs États depuis le Sahel jusqu'au Kenya. Les États-Unis seront représentés à la réunion, entre autres par Linda Thomas-Greenfield, secrétaire d'État adjointe pour les affaires africaines. La lutte contre Boko Haram maintenant, le nouveau président du Nigeria, Muhammadu Buhari, est déterminé à prendre la tête de la campagne contre la secte islamiste. C'est ce qui ressort du sommet des pays de la coalition anti-Boko Haram hier à Abuja. Les explications d'Antoine Glaser, spécialiste des questions africaines, joint à Paris par Jean-Roger Bion.
Ils veulent toujours avoir la direction, la coordination, le commandement. Et là, on voit qu'il y a une répartition des tâches, en particulier avec le Tchad, à partir du moment où l'état-major de la force régionale sera N'Djamena, mais avec un général qui sera un général nigérian. C'est une façon de se coordonner. Mais tout ça, ça se fait au niveau des chefs, en particulier des présidents, et ensuite des chefs d'état-major et autres. Mais est-ce qu'au niveau de la troupe, est-ce que ça va suivre? Ça, on ne sait absolument pas comment les choses vont se coordonner.
Les pays contributeurs avaient souhaité une force dont le commandement est tournant, mais le président nigérien est resté inflexible. Pourquoi, selon vous?
Il y a toujours eu cette attitude du Nigeria anglophone avec 180 millions d'habitants vis-à-vis des petits frères francophones. Buhari, au niveau national, dans un pays aussi nationaliste que le Nigeria, considère qu'ils n'ont pas à recevoir d'ordre, de commandement, de quoi que ce soit des pays voisins. Mais encore une fois, le fait d'avoir accepté que l'état-major soit quand même à N'Djamena, c'est aussi, à mon avis, faire un clin d'œil, ou en tout cas au Tchad, pour remercier le Tchad quand même est intervenu le premier contre Boko Haram dans la région, et puis aussi sans doute un clin d'œil à la France qui va sans doute assurer une logistique à partir de N'Djamena, puisque c'est là où l'état-major français de toute l'opération Barkhane dans le Sahel est au Tchad, et donc c'est aussi, à mon avis, le président Buhari, ça lui permettra d'avoir quand même un soutien sur le plan occidental.
Le Tchad, disons, c'est plein du manque de coordination quand le Nigeria dirige les opérations. Qu'est-ce que vous en dites?
Le Tchad, c'est toujours plein le fait qu'il n'y ait jamais eu de coordination avec le Nigeria, mais ça, c'était surtout du temps de Goodluck Jonathan. Je pense que là, ils se rendent bien compte qu'il y a quand même, sans faire de mauvais jeu de mots, il y a quand même le feu au lac. Le véritable danger, c'est vraiment toutes les îles du lac Tchad qui sont complètement incontrôlées. On a vu comment même les populations du Niger ont fui et le véritable enjeu, c'est que Boko Haram finalement s'installe au cœur du lac et à ce moment-là, il sera très difficile avec des populations parce que s'il y a le véritable enjeu économique, c'est quand même le lac Tchad pour l'ensemble des éleveurs et c'est vrai que ça échappe à tous les pays. Alors là, à ce moment-là, c'est pas simplement le Nigeria. Le Nigeria sait très bien que c'est quand même plus du côté du Tchad et le problème, ça sera vraiment le problème du Tchad et on voit pas comment même le Nigeria peut refuser au Tchad de se coordonner en tout cas sur la lutte contre Boko Haram, là c'est vraiment son territoire.
Le journaliste Antoine Glaser qui vient de publier Africa France, quand les dirigeants africains deviennent maîtres du jeu. Sur le terrain au Nigeria, 6 villages incendiés, 37 personnes tuées par les militants de Boko Haram mercredi soir dans l'état de Borno, dans le nord-est du pays, près de la forêt de Sambisa, un bastion de la secte. Selon un responsable d'un groupe d'autodéfense, les victimes sont des paysans qui avaient regagné leur village après que l'armée nigériane eut chassé Boko Haram de la région cette année. Au Mali, le programme de gouvernement du Premier ministre Modibo Keïta, approuvé à une large majorité aux petites heures du matin, aujourd'hui à Bamako. M. Keïta a appelé à la cohésion nationale pour sortir de la crise et il demande l'implication de tous et à tous les niveaux pour accomplir cet objectif, selon l'AFP. 116 députés ont voté pour et 16 contre, ces derniers tous des membres de l'opposition. En Côte d'Ivoire, le commandant Anselme Seka Yapo, ancien chef de la sécurité rapprochée de l'ex-première dame Simone Gbagbo, a plaidé non coupable hier devant le tribunal militaire d'Abidjan, qui le poursuit notamment pour meurtre, assassinat et blanchiment d'argent aux fins d'achat d'armes. Surnommé CKCK, le commandant Yapo avait été l'un des piliers de l'appareil sécuritaire du régime de l'ex-président Laurent Gbagbo. Selon l'AFP, il était le dernier accusé entendu dans le procès ouvert mardi de 9 officiers pro-Gbagbo jugés pour des exactions commises durant la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait environ 3000 morts.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En RDC, 31 adeptes d'un chef de secte accusé d'être l'instigateur d'attaques meurtrières fin 2013 ont été condamnés à de lourdes peines de prison jeudi par un tribunal militaire de Kolwezi au Katanga pour détention illégale d'armes et rébellion. Des précisions avec Eddie Isango.
Une des personnes qui comparaissait dans ces procès a été acquittée faute de preuves. Les 31 autres ont écopé des peines de 7 à 15 ans de prison, mais ont tout de suite fait appel. Les condamnés, arrêtés lors des événements meurtriers les 30 décembre 2013, sont des membres d'une secte évangélique que dirige Joseph Mukungubila, un pasteur de renom en RDC qui affirme parfois être le Christ. Comme ceux de Kolwezi, les adeptes de la secte avaient attaqué les mêmes jours plusieurs points stratégiques dans plusieurs provinces, comme l'aéroport de Kindu et la radio-télévision nationale à Kinshasa, où ils ont proclamé Mukungubila président élu. La Ligue des électeurs, organisation congolaise de défense des droits de l'homme, estime que plus de 300 personnes ont péri dans la répression, dont environ 200 au domicile du pasteur. À Kinshasa, un tribunal militaire juge une vingtaine de personnes pour leur implication présumée dans les attaques de la capitale, dont M. Mukungubila lui-même exilé en Afrique du Sud.
Burundi, la crise politique déclenchée par la détermination du président Pierre Nkurunziza à briguer un nouveau mandat affecte une économie qui se débattait déjà dans des difficultés. Le pays étant parmi les plus pauvres du monde, Idrissa Sedoudia.
Selon l'envoyé spécial de la Voix de l'Amérique à Bujumbura, Emily Yop, les activités en magasin d'entreposage de riz dans la capitale ont été subitement arrêtées il y a quelques semaines. Les policiers ayant accusé son gérant de vendre du riz aux manifestants, un employé qui a requis l'anonymat. Ce travailleur explique qu'il chargeait le riz pour les clients et pouvait ainsi se faire entre 2 et 5 dollars par jour. Mais c'est très, très difficile ces jours-ci, dit-il, et il va probablement rentrer à la maison les mains vides. La fermeture de l'entrepôt affecte tout le monde, poursuit-il, travailleurs et marchands. Toutes les vies sont affectées à cause de ça. Le Burundi, pour rappel, fait face à la crise politique la plus sérieuse qu'il ait connue depuis la fin de la guerre civile il y a une décennie. Des manifestations violentes ont suivi l'annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza en troisième mandat. Trois semaines de protestations ont inévitablement eu un impact profond sur la fragile économie de l'un des pays les plus pauvres du monde. Certains magasins et commerces ont dû suspendre leurs activités à cause de l'insécurité. Des barrages routiers empêchent le transport de produits de base tels que le riz, affirme Estelle, vendeuse au marché de Bujumbura. Estelle explique que le riz tanzanien a augmenté et qu'il est devenu plus difficile de l'obtenir parce que les fournisseurs ont peur de le transporter à cause des barricades et de l'insécurité. Plus de la moitié de la population burundaise souffre de malnutrition et la dernière hausse des prix des produits alimentaires n'a fait qu'accentuer les pressions, estime Michael, qui tente désespérément d'acheter un panier de vivres au marché. Michael dit que les prix de toutes les denrées ont augmenté. Un kilo de viande lui coûtait avant 2 dollars environ, maintenant il doit payer presque 3 dollars. Idem, dit-il, pour le riz et les tomates. C'est un luxe que les gens ne peuvent pas se permettre, explique-t-il. Pour certains analystes, la fin de la crise politique ne signifierait pas nécessairement la fin de la crise économique, particulièrement si M. Nkurunziza venait à être réélu. La moitié du budget du Burundi vient de l'aide extérieure et l'un des principaux donateurs du pays, la Belgique, a déjà menacé de suspendre son assistance si M. Nkurunziza se cramponnait au pouvoir.
Et pour terminer, un adolescent américain a admis devant un tribunal qu'il a essayé d'aider le groupe État islamique à recruter des partisans. Il risque une peine de 15 ans de détention. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.